Yannick Petit avec vous pour vous souhaiter la bienvenue sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre. C'est mercredi et c'est un rendez-vous désormais bien ancré sur les ondes de votre radio locale depuis novembre 2010. Avant d'entrer en matière, il me faut préciser que l'émission que vous allez suivre ce soir a été enregistrée en public le 9 mai dernier à la librairie L'Autre Monde. Je salue toute l'équipe de la librairie. Carola Missel et Evelyne Levallois, notre fidèle libraire, qui est bien sûr à nos côtés. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
Et on te retrouve à la fin de l'émission pour le traditionnel coup de cœur que tu offres et partages depuis maintenant plus d'un an avec nos auditrices et auditeurs. Et ce soir, nous accueillons un historien et anthropologue. C'est Damien Baldin. Bonsoir Damien Baldin.
Bonsoir.
Alors vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes actuellement chargé d'enseignement à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous préparez une thèse sur la police des chiens en France de la fin du 18e jusqu'aux années 60. Et puis, année 2014 oblige, j'allais dire pour les historiens passionnés de la Grande Guerre, vous êtes conseiller à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous avez fait paraître au mois de janvier ou février de cette année donc une histoire des animaux domestiques 19e, 20e siècle aux éditions du Seuil. Alors vous avez aussi, Damien Baldin, écrit une histoire du sein, S-E-I-N, ça m'a interpellé, une histoire du sein, c'est-à-dire une approche historique du corps des femmes au 19e siècle. Rapidement un petit mot sur cette histoire du sein.
Écoutez, c'était un ouvrage qui a été le résultat d'un travail de mémoire, de maîtrise, avec Alain Corbin. C'était la dernière année où Alain Corbin, grand historien du sensible, enseignait à l'université à la Sorbonne. Et je sortais tout juste de Cagnes, et je devais chercher un mémoire de maîtrise. Et je voulais un sujet... je voulais travailler avec Alain Corbin, je voulais travailler sur l'histoire du corps, et je voulais travailler sur un objet transversal, si je puis employer ce mot. Et un matin, en me réveillant, je me suis dit, mais bien sûr, les seins des femmes, objet incroyable, incroyablement riche, avec une approche médicale, une approche artistique, une approche par la sexualité, une approche par la sensualité, par l'érotisme, par la pornographie. Enfin voilà, il y avait tout d'un coup, c'était un objet historique qui permettait d'avoir une approche par des angles absolument divers et qui m'a passionné, alors sur une période très restreinte, là pour le coup, la toute fin du 19e, 1860-1914.
Alors vous avez aussi beaucoup travaillé sur la guerre de 14-18, vous avez travaillé d'ailleurs avec Stéphane Audouin-Rouzeau et le professeur Jean-Jacques Becker, pas sa fille, pas Annette.
Non, j'ai juste surtout travaillé avec Stéphane Audouin-Rouzeau, hein, plus qu'avec Jean-Jacques Becker, qui est mon directeur de thèse.
Donc c'était la guerre des animaux 1914-1918. Et puis, j'insiste sur le fait que vous êtes très attaché à la guerre de 14-18, parce que la première phrase qui ouvre cette histoire des animaux domestiques, c'est « Cette histoire des animaux est fille de la Grande Guerre ». Alors, quel est le lien entre la Grande Guerre et une réflexion sur le sort de la condition animale, l'amélioration des espèces, sa protection, sa valorisation, et notamment dans le champ de l'affectif et de la sphère intime. Quel lien entre 14-18 et le sort de la condition animale?
Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Comme vous l'avez vu pour la première réponse, j'aime bien donner un petit peu le côté égo-histoire et histoire personnelle, parce que souvent ça permet de comprendre également le lien historiographique. C'était un moment où je préparais l'agrégation et j'avais redécouvert l'histoire de la Première Guerre mondiale qui était au programme d'histoire en questions contemporaines. Et là encore, je prévoyais de continuer à faire des recherches en histoire, donc de préparer un DEA. Et tout en préparant l'agrégation, j'avais envie de trouver un sujet d'étude. Par un hasard assez incroyable, je travaillais à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, je révisais et je lisais un article sur les sorties de guerre. Ou comment les sociétés européennes se démobilisaient, comment on passait du temps de paix au temps de guerre. avec des aspects pratiques, économiques, comment les hommes quittaient, allaient du front et rentraient chez eux, comment ils étaient désarmés, comment ils passaient du statut de soldat au statut de civil, enfin, comment ils retournaient civils. Et puis là, une note de bas de page, complètement anecdotique, sans aucun développement, et aussi, il a fallu démobiliser 10 000 chiens de guerre. Point. Aucune analyse, rien du tout, et là je me suis dit, mais c'est extraordinaire, bien sûr. Bien sûr, les animaux. Et là, tout d'un coup, il y a les... si vous voulez, tout d'un coup, soit quoi vous ne faites pas attention, en ayant lu sur la Grande Guerre, vous vous rendez compte que c'est presque à chaque page, hein, ou dans chaque témoignage. Et tout d'un coup, c'est une sorte d'illumination, vous dites, mais c'est vrai, et les rats, et les chevaux, et les chiens, et vous vous rappelez que tel auteur a parlé de tel chien, de tel cheval, et tout d'un coup, il y a un monde qui s'ouvre à vous, et vous dites, mais bien sûr, il faut absolument aller... aller voir ce qui se passe dans cette grande guerre par rapport aux animaux. Donc ça, c'est comment j'ai travaillé, comment je me suis mis à travailler là-dessus. Et le second point, c'est que la grande guerre, c'est vraiment une sorte de... c'est une chance incroyable pour un historien, parce que c'est une sorte de laboratoire où tout d'un coup, les pratiques... qu'on voit assez peu lorsqu'on étudie le temps de paix, tout d'un coup, tout est révélé. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous avez ces chevaux, ces chiens, vous ne les voyez pas lorsque vous êtes un historien de 1850 à 1914, et lorsque vous étudiez la guerre, tout d'un coup, tout ce monde-là réapparaît. Et en fait, j'ai commencé à m'interroger sur justement la présence des chevaux, notamment dans les armées, et j'ai réalisé, alors c'est très bête, hein, mais bon, c'est aussi ça, tout d'un coup, les sortes d'illumination, j'ai réalisé que, en fait, c'était toute la société du 19e qui partait à la guerre, hein, qui partait à la guerre avec ces animaux-là, et donc, j'ai rapidement compris que, pour comprendre la présence des animaux dans la Grande Guerre de 1914 à 1918, il fallait se pencher sur cette société du 19e siècle, qui avait été étudiée, qui est beaucoup étudiée. On connaît très bien l'histoire économique, on connaît très bien l'histoire culturelle, on connaît très très bien l'histoire politique, mais finalement on connaît parfois très peu ce qui est dans l'environnement très concret et très quotidien de la population. Et en fait, les hommes et les femmes de 1914 vivaient avec les animaux, vivaient avec une proximité, que ce soit à la campagne ou à la ville, que ce soit avec des animaux de compagnie ou avec des animaux d'élevage, avaient une proximité avec les animaux que nous avons complètement perdu. Et je pense que si justement la guerre m'a fait étudier les animaux, c'est parce que en fait l'étude de l'histoire est toujours très proche, enfin c'est toujours un homme du présent qui étudie l'histoire, et malgré tout on étudie souvent le passé avec ce qu'on voit autour de nous, et le fait qu'on vive dans un monde où les animaux sont très très peu présents, même s'il y en a un ici avec nous, bien, fait aussi qu'on oublie, on imagine ce monde du 19e siècle avec presque le même environnement. Et le fait justement de pouvoir étudier la Grande Guerre, de voir que ces hommes et ces femmes étaient entourés de millions d'animaux, m'a permis de me dire, de montrer la place incroyable dans l'environnement des animaux domestiques. Voilà.
Si on s'arrête sur les chevaux, justement, parce que le cheval est un animal omniprésent dans la société française, parce que la France a une culture équestre, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que finalement, au moment de la Première Guerre mondiale, on réquisitionne plus d'un million de chevaux. Il y en a 750 000 qui vont mourir quand ils ne sont pas abandonnés dans la boue. Vous expliquez au début, d'ailleurs, que Maurice Genevoix... encore cette émotion quand il parle de ces chevaux qui sont complètement embourbés et qu'on abandonne sur le champ de bataille. Et ce qui est d'autant plus émouvant, c'est aussi ces familles de paysans qui non seulement ont vu partir un fils ou un mari à la guerre et qui doivent encore donner le cheval. Et là encore, c'est une part de la famille, justement de cette intimité de la famille qui part au combat.
Ouais, 800 000 chevaux sont immédiatement réquisitionnés par l'armée française entre le 1er août entre le 2 août officiellement et le 31 août. Ces 800 000 chevaux, ça fait un ratio presque de un cheval pour quatre hommes. Donc c'est quand même extrêmement, il y a une présence extrêmement dense des chevaux. Et alors, pourquoi d'abord, pourquoi ces chevaux ? 100 000 à peu près servent à la cavalerie, parce qu'il y a encore 100 000 cavaliers dans l'armée française en 1914, et les autres servent à la traction des voitures, de ravitaillement essentiellement, mais surtout la traction des canons, puisque même encore en 1918, il faut savoir que 85% de l'artillerie est encore tirée par des chevaux. Et ça, c'est assez incroyable. Pourquoi ? Parce que l'automobile est déjà connu, le camion aussi. Mais sur des sur les longues distances, il y a le train. Hein, depuis le milieu du 19e siècle, le train a remplacé les chevaux. Mais sur les courtes distances, le cheval reste le moteur de la société du 19e siècle. Et sur les courtes distances, jusqu'à donc au développement de la voiture, mais la voiture est encore très peu développée avant 1914, c'est le cheval qui est l'automobile d'aujourd'hui. Et encore plus, sur un champ de bataille où vous n'avez pas de route, mais encore moins des routes goudronnées, et que donc, entre l'échelon, si vous voulez, les hommes, les canons sont amenés par train, il y a à quelques dizaines de kilomètres du front, mais après, pour faire le trajet de la gare jusqu'à la zone des opérations, le seul moyen de pouvoir tirer et de rendre mobile des canons sur des terrains extrêmement compliqués, ce sont les chevaux. Et ce qu'on oublie aussi assez peu, c'est que même la Seconde Guerre mondiale, qui est présentée comme la grande guerre des avions mécanisés, des tanks, même encore aujourd'hui, hein, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, les Stuka, les Panzer, la Blitzkrieg, mais il faut savoir qu'une division de Panzer, par exemple, avait besoin de plusieurs centaines de chevaux, et que l'armée allemande, la fameuse Wehrmacht d'Adolf Hitler, compte encore plus de chevaux que l'armée allemande de la Première Guerre mondiale. Et lorsque les Allemands, en 1941, se lancent à l'offensive en URSS, ils ont certes une armée très mécanisée avec les Panzer, mais très rapidement, notamment à cause des problèmes d'approvisionnement en essence, à cause notamment aussi du froid, des routes qui sont très peu empruntables, eh bien, les chevaux sont là pour assurer l'approvisionnement et le ravitaillement de l'armée allemande, qui va être très rapidement embourbée en URSS. Pareil, lorsque les Américains, la grande armée américaine, la grande armée moderne américaine rentrent dans le conflit, se lancent dans la campagne d'Italie pour remonter vers le nord, dans les Apennins, par exemple, les Américains sont obligés de faire appel à plus de milliers de mulets pour pouvoir continuer à faire la guerre. Donc même encore jusqu'en 1945, nous avons des armées extrêmement animalisées.
Vous dites même l'armée rouge, 3 millions de chevaux.
Oui, alors, les chiffres sont difficiles à estimer pour l'armée rouge, mais oui, sans doute que l'armée rouge de 1939-1945 est sans doute celle qui, dans l'histoire, a compté le plus de chevaux. Vous savez, jusqu'à ce que les États-Unis puissent aider l'armée soviétique, les chevaux étaient, là encore, le moteur essentiel des troupes soviétiques, de l'armée rouge.
Et puis vous rappelez quand même que le 14 juillet 1919, Joffre et Foch remontent les Champs-Élysées pour le défilé militaire à cheval. C'est l'animal omniprésent dans la société française.
Oui, et ce qui est surtout très, très intéressant, c'est que l'animal, le cheval, est à la fois est un animal qui traverse les catégories sociales. C'est à la fois l'animal de l'aristocratie et la noblesse, qui est l'héritage du chevalier. Ça, c'est le cheval qui est monté, mais le cheval, ça peut être aussi celui du paysan breton, ça peut être celui du cheval dans les plaines céréalières de la Beauce, et ça peut être aussi le cheval du charretier parisien et du charretier des grandes villes. Donc vous avez un cheval qui est socialement approprié par différentes catégories de la population. Ce ne sont pas à chaque fois les mêmes chevaux. Hein. Le cheval qui est utilisé pour le labour n'est pas le cheval de monte du Faubourg Saint-Germain à Paris, évidemment. Mais c'est très souvent un signe de distinction sociale. En Bretagne, par exemple, le valet de ferme qui doit s'occuper du cheval jouit d'un prestige bien supérieur aux autres domestiques ou aux autres paysans bretons. Et On a donc vraiment un... Alors, il faut quand même bien savoir aussi, nuancer que la France du cheval est surtout une France de la partie nord. Le cheval est bien plus présent dans la France septentrionale que dans la France méridionale, où on retrouve beaucoup plus l'usage du mulet et l'usage de l'âne, notamment dans les régions montagneuses.
Damien Balder, on va marquer une première pause musicale. On vous retrouve dans quelques minutes pour donc l'histoire des animaux domestiques 19e, 20e siècle. C'est aux éditions du Seuil. Mais...
Dis-moi un peu à quoi je sers sur cette terre. Je me pose souvent la question, car moi je ne sais rien faire. Oh sainte mère, est-ce une profession? Non. Alors je danse et bricole deux, trois mots au bord de l'eau. D'accord, et ravistole quelques bémols sans savoir le vrai du faux. Je mets un peu de blues, un peu d'âme, deux, trois notes, une envie de bonheur, un peu de soul et je m'enfame. Pour une vie de toutes les couleurs, juste un peu de blues, un peu d'âme. Je fredonne mes notes et mes humeurs. Toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville, de cœur en cœur. J'ai jamais su marcher tout droit sur cette terre. Je prends des chemins enlacés, souvent laisser le choix. Oh sainte mère, d'apprendre à me tromper. Alors je prends le temps, m'abandonne à ma dose de soleil. D'accord, et m'endors à la belle étoile. Sur ma ligne de vie je veille. Je mets un peu de blues, un peu d'âme, me tourne d'une envie de bonheur, un peu de soul et je m'enflamme. Pour une vie de toutes les couleurs, juste un peu de blues, un peu d'âme. Dans mes notes et mes humeurs, toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville, de cœur en cœur. Je ne roule pas sur des rails, je m'attarde sur les détails, si vous le voulez. Oh, j'ai mes combines et mes ficelles, un terreau non même pas manuel. Mais moi je voudrais juste un peu de blues, un peu d'âme. De trois notes, une envie de bonheur. Un peu de soul et je m'enflamme. Pour une vie de toutes les couleurs. Oh, je ne roule pas sur des rails, je m'attarde sur les détails. Si vous le voulez, ne voulez pas de manger. Mes combines et mes ficelles, un terreau non. Je voudrais un peu de blues et un peu d'âme. De trois notes, une envie de bonheur.
De trois notes, une envie de bonheur.
Un peu de soul et je m'enflamme. Pour une vie de toutes les couleurs.
Pour une vie de toutes les couleurs.
Je mets du blues, je mets de l'âme. Un peu de soul et je m'enflamme. De ville en ville et de cœur en cœur. Et avec toi, oui, mon amour qui m'accompagne pour cette vie de toutes les couleurs.
Votre rendez-vous culturel du mercredi sur l'antenne de Radione revient avec notre invité, agrégé d'histoire et chargé d'enseignement à l'école des hautes études en sciences sociales pour son histoire des animaux domestiques 19e, 20e siècle. C'est Damien Baldin qui est avec nous. Parlons de cette promiscuité et de la familiarité avec les animaux. Alors bien sûr, le livre rappelle qu'au 19e siècle, les animaux sont partout, y compris dans les villes. Il y a des cochons, il y a des lapins, il y a des poules. Les animaux sont omniprésents dans la ville. On vit même parfois avec eux, et même plus on est modeste, plus on a d'animaux avec soi. Alors, on ne peut pas aborder tous les aspects de la relation privilégiée que l'homme entretient avec les animaux, mais en tout cas, vous parlez de la vache, par exemple, où il y a un lien affectif autour de cet animal. que l'on protège, que l'on considère même comme membre de la famille, puisque cet animal parfois obtient des prix, des médailles qu'on expose, ou des photos qu'on expose de la bête, qui fait partie intégrante de la famille.
Alors, vous abordez ici la question de l'élevage. J'imagine que dans le public ici présent, certains ont peut-être même, je n'en doute pas, une meilleure connaissance que moi de l'élevage. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre avis. Il faut d'abord faire un petit point historique. La proximité, la présence des animaux d'élevage dans les campagnes n'a jamais été aussi forte qu'au XIXe siècle. L'image d'une campagne riche en animaux d'élevage, c'est un stéréotype qui n'est applicable qu'au XIXe siècle. Le Moyen-Âge et même encore la période de l'Ancien Régime sont des périodes où les animaux d'élevage sont beaucoup moins présents qu'à partir du XIXe siècle, avec la révolution agricole qui permet effectivement aux étables de se remplir et aux prairies d'accueillir tous ces troupeaux qui paissent. Donc, vous avez une société rurale qui, très clairement, par rapport au siècle précédent, possède beaucoup plus d'animaux d'élevage et qui a une proximité très forte avec ces animaux d'élevage, puisque, vous le savez, j'aime pas cette expression, mais la France agricole est plutôt une France du XIXe siècle de la petite propriété rurale, donc des troupeaux qui ne sont pas des immenses troupeaux. Parfois même, beaucoup d'exploitations ont simplement une seule ou deux vaches, pareil pour le cochon. Et donc, le modèle de l'exploitation agricole familiale renforce effectivement la proximité, notamment même physique. Si on prend l'exemple, si on part plutôt en Savoie, hein, les paysans des alpages vous expliquent la proximité à l'intérieur même de la maison, avec la proximité de l'étable et puis de la pièce principale. Donc vous avez une proximité corporelle, sensible, hein, en termes d'odeur.
Sonore,
et évidemment. Et puis qui fait aussi que ce que beaucoup de personnes ont de plus en plus de mal à comprendre, c'est que on peut être tout à la fois un paysan qui utilise son animal pour une production économique, tout en ayant des sentiments et une affection pour ces animaux.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, je me permets d'intervenir, c'est que, justement, cette proximité, elle ne va pas que dans un seul sens. Vous parlez notamment du rôle des animaux pour l'éducation des enfants. Hein, c'est le moment où les enfants apprennent à prendre soin de quelqu'un d'autre. Et c'est des choses qu'on redécouvre aujourd'hui dans les pédagogies différentes. Mais vous en parlez déjà dans votre ouvrage au 19e.
Oui, et deux mondes un petit peu différents. C'est dans un monde rural où justement la garde des petits animaux est aussi une charge confiée soit aux personnes âgées, soit aux jeunes enfants. Je pense notamment aux troupeaux d'oies et à l'image un peu stéréotypée, mais qui avait une véritable réalité des jeunes filles qui s'occupent du troupeau d'oies. Donc, dans un monde rural, vous avez effectivement un apprentissage à la fois du métier d'agriculteur avec ses enfants à qui l'on confie des tâches de gardiennage souvent d'animaux, et c'est une véritable propédeutique y compris affective. Et dans les catégories sociales plus élevées, notamment urbaines, vous avez la volonté justement dans l'éducation de pouvoir donner à ses enfants un petit animal de compagnie, donc souvent un chien ou un chat, qui permettent de... alors pour les jeunes filles, c'est très clairement une indication très genrée, à savoir que ça doit développer chez elles des qualités maternelles, elle doit bien s'en occuper, et donc c'est aussi une manière de responsabiliser les jeunes enfants. Donc très clairement, et même encore, c'est une histoire qui dure jusqu'à aujourd'hui, hein. Le fait de pouvoir aujourd'hui, une des, un des moments où les familles font l'acquisition d'un animal de compagnie, hein, c'est soit pour un enfant, hein, très clairement, parce qu'il y a justement un apprentissage, notamment de la douceur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un sentiment qui prend de plus en plus d'importance au 19e, puis au 20e siècle, et que la caresse, notamment, que les enfants développent avec ces animaux, doit être justement un apprentissage de la douceur, et qui est aussi, cet apprentissage de la douceur, c'est assez amusant, parce que c'est aussi très social. Il ne faut pas oublier que, au 19e siècle, les élites cherchent à adoucir les mœurs d'un prolétariat que l'on estime trop violent, et que la volonté de diffuser justement des pratiques et des gestes envers les animaux de compagnie, notamment celle de la douceur, ça participe aussi, hein, d'un plus long processus d'adoucissement des mœurs. Et donc là, mais comme pour beaucoup de sujets, hein, étudier les animaux, ça permet aussi d'étudier des mouvements sociaux bien plus vastes. Donc là, je parle des caresses, de la douceur, et ça renvoie aussi à une histoire plus longue d'une volonté d'adoucissement des mœurs.
Alors, caresse, douceur, vous expliquez aussi combien les femmes ont puissamment contribué à l'amélioration du sort des animaux, et que si on prend le cas du chien, le chien est un animal fidèle, mais ceci dit, pendant très longtemps, le chien est considéré comme un animal errant, que l'on redoute quand même, on craint la morsure, et il y a surtout la peur de la rage quand même pour le chien. Il y a ce paradoxe autour du chien. Sa fidélité est montrée comme une valeur exemplaire chez cette bête, et pourtant, on le redoute et on le craint.
Alors, deux questions, les femmes et les chiens.
Alors, les femmes d'abord, peut-être.
Les femmes d'abord, puis après, je reviendrai sur la question des chiens. Alors, les femmes ont participé à l'amélioration du sort des animaux.
Elles sont militantes féministes. Parfois, vous dites, on en rencontre, oui, des militantes féministes. Alors, ce sont celles qui font progresser la cause animale. Et c'est plus les gens de gauche, quand même, qui s'intéressent au sort de l'animal que les conservateurs.
Alors, non, justement. C'est absolument passionnant, parce que même encore aujourd'hui, politiquement, c'est assez incroyable. Les animaux sont à la fois un sujet de droite et de gauche. Donc maintenant, il y a la question politique, en plus de la question des femmes.
Oui. Nous voilà bien embarrassés.
Alors, les femmes ont participé, évidemment, on va dire, au mouvement associatif et au mouvement d'opinion qui s'intéressait au sort des animaux et qui émerge à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Hein. Pour un repère, la SPA est créée en 1845. Voilà. Et après, les sociétés vont se développer surtout à partir de la fin du 19e, puis au 20e siècle. La première avancée obtenue par la SPA, c'est la loi Gramont, 1850. Et là, nous sommes dans une SPA qui est profondément masculine.
Avec des inspecteurs sur le terrain.
Exactement. Donc, ce n'est pas uniquement, pour vous dire, ce n'est pas uniquement une protection féminine qui a fait avancer le sort, ou on va dire l'amélioration des animaux domestiques. Par contre, ce qui est certain, c'est que au début, on a une protection, un mouvement protecteur qui est plutôt masculin, qui est plutôt de personnes notables, plutôt bourgeois, qui cherche à améliorer le sort des animaux. Pourquoi ? Non pas tant comme aujourd'hui par souci du bien-être animal, mais pour deux raisons extrêmement importantes. C'est que, un, les animaux sont un outil économique absolument incroyable et que donc bien les traiter, s'assurer une bonne productivité économique, et que donc on doit faire attention au sort et au... Il n'y a pas encore le mot bien-être, mais on doit faire attention justement aux animaux domestiques. Et puis il y a une deuxième raison, qui est une raison politique, c'est justement les élites sociales ont une représentation très négative des classes populaires et des classes paysannes, qui sont considérées comme des classes qui maltraitent et qui ne font pas attention aux animaux, et c'est donc une manière d'éduquer, pour les élites sociales, une manière d'éduquer le peuple en lui apprenant le bon comportement avec les animaux domestiques. C'est bien sûr une représentation, hein, et non pas une réalité. Je ne crois pas, et je suis même persuadé au contraire, même les ouvriers parisiens ou les paysans ne sont pas plus violents au XIXe siècle qu'une élite sociale. Donc, et ce n'est que dans un deuxième temps, et c'est un petit peu comme aujourd'hui, hein, vous savez qu'aujourd'hui il y a un grand débat sur les animaux, être sensible, il y a des revendications, non pas au nom d'une productivité matérielle, ou même au nom de valeurs, on va dire, anthropocentrées, c'est-à-dire que c'est pas... Aujourd'hui, on ne cherche pas à protéger les animaux pour lutter contre des comportements humains. On cherche simplement à améliorer le sort des animaux parce que ce sont des animaux. Bon. Et cette idée-là, elle apparaît à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est ce que j'appelle la protection plus sensible, où on cherche à protéger les animaux parce que ce sont des animaux et des êtres sensibles. Et c'est à ce moment-là que l'on voit effectivement apparaître une féminisation de la protection. C'est-à-dire que le moment où la protection devient de plus en plus une protection dite sensible, ça correspond effectivement à une évolution de la sociologie des protecteurs des animaux, où l'on retrouve de plus en plus des femmes, et notamment dans la SPA, c'est très très clair, hein, puisque notamment celle qui va présider la SPA dans les années 20 est une femme, alors qu'avant c'était une société de notables, et évidemment des hommes. Donc oui, les femmes ont participé à l'essor de cette deuxième phase de la protection des animaux, et c'est d'ailleurs une femme qui a créé l'OABA, qui est l'association pour protéger les animaux de boucherie dans les années 60.
Et c'est une femme aussi qui crée le cimetière pour animaux à Asnières, Marguerite Exactement. Durand, donc c'est 1899.
Ouais, je pense que vous êtes bien meilleur que moi en date.
Ah, moi je vous ai lu, hein, c'est pour ça que moi je n'ai pas de mérite.
Mais par contre, maintenant je reviens à la question politique, qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que donc, la première loi, elle date de 1850. C'est une loi extrêmement simple qui punit d'une contravention les mauvais traitements envers les animaux domestiques dans l'espace public. Ça veut dire que si vous tabassiez votre cheval chez vous, vous ne risquez rien. Par contre, si vous le faisiez dans la rue, vous pouviez être sanctionné. Cette loi, elle est proposée par le général de Gramont, qui est un général bonapartiste, de la droite conservatrice.
Qui est antidémocrate même.
On peut le dire, qui est antidémocrate. Et donc elle est proposée par ce général de Gramont, elle est soutenue par le Parti de l'Ordre, et elle est également soutenue par Victor Schœlcher et par les Républicains, qui sont situés tout à la gauche de l'Assemblée. Donc déjà, la première loi est votée à la fois par la droite et par les Républicains, avec deux oppositions, qui sont l'opposition des libéraux, qui estiment que c'est une mesure antilibérale, qui est une atteinte à la propriété. Après tout, si l'argumentaire très classique, hein, si le propriétaire de son chien veut battre son chien, l'État, la société n'a pas à l'en empêcher, c'est sa propriété. Donc les libéraux voient cette mesure-là comme une mesure antilibérale. Et puis il y a aussi les chrétiens. Les chrétiens qui estiment que certains chrétiens, la question est compliquée, mais certains chrétiens estiment que on n'a pas à légiférer sur les animaux et que donner de l'attention aux animaux, notamment d'un point de vue politique, c'est se détourner de l'homme qui est au cœur de la religion. Et puis après, à la fin du 19e siècle, vous avez également deux députés qui vont militer pour améliorer la loi Gramont, pour qu'elle soit plus efficace, et vous avez un député qui est un élu du 16e arrondissement, qui est proche des milieux du boulangisme, qui est vraiment très à droite, et puis au contraire, vous avez une gauche républicaine qui, elle aussi, milite pour le sort des animaux, parce que, et y compris une gauche d'ailleurs très très radicale, puisque on retrouve chez les hommes politiques qui s'intéressent au sort des animaux, ce sont les mêmes qui s'intéressent au sort des enfants, au sort des femmes, et là en fait nous retrouvons toute une doxa républicaine qui associe les animaux à la marginalité sociale, et que on ne s'occupe pas des animaux comme on ne s'occupe pas du sort des femmes, comme on ne s'occupe pas du sort des enfants, comme on ne s'occupe pas du sort des ouvriers. Et Jules Michelet notamment qui parle des frères inférieurs, et donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir un discours extrêmement radical à gauche sur la protection des animaux. Et même encore aujourd'hui, la question, elle est difficilement, on peut difficilement la situer dans le justement dans tout le diable, vraiment dans toute l'assemblée et dans toute la diversité des partis. Vous avez par exemple la fondation Brigitte Bardot, qui peut tenir, qui a des positions parfois politiquement très à droite, et vous pouvez également trouver un souci des animaux chez des groupes écologistes qui sont eux très marqués à gauche. Donc c'est une question qui est vraiment très très intéressante à étudier. C'est même difficilement démêlable.
On marque un nouveau temps de pause dans notre entretien avec Damien Baldin, donc l'auteur de l'histoire des animaux domestiques 19e-20e siècle. C'est aux éditions du Seuil. C'est un essai donc qui étudie l'intimité des sentiments que les animaux font naître, et cette cohabitation entraîne donc une véritable domestication. Et c'est entre autres ce dont traite notre invité Damien Baldin, qu'on retrouve dans quelques minutes. Là, on fait une petite pause musicale.
Told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive. I won't admit, sometimes I just wanna hide, cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me?
Si vous avez manqué le début de notre émission, vous la retrouverez d'ici quelques jours d'un clic sur le site internet de Radion, un numéro de Wagon Livre enregistré en public le 9 mai dernier. Je remercie le public. Enregistré dans le cadre des apéros de l'autre monde. Donc nous sommes ce soir avec Damien Baldin pour son histoire des animaux domestiques 19e-20e siècle aux éditions du Seuil. Alors, votre essai, Damien Baldin, montre aussi que plus on aime les animaux, et là je voudrais qu'on parle des animaux que l'on conduit à l'abattoir, Parce qu'avant, on amenait les animaux de la campagne, les bouchers les tuaient en ville. Se posait le problème de l'odeur, du bruit, des bêtes que l'on ratait parfois. C'est terrible, il y a des choses terribles quand même sur la manière dont on tue les animaux. On ratait parfois malheureusement le premier coup pour assommer la bête qui s'échappait et fonçait dans la ville. Il y a le problème de l'odeur, il y a le problème de l'évacuation du sang, le problème de l'hygiène. Alors en fait, ce que votre livre montre, c'est que plus on aime les animaux, plus on avance dans le temps et plus, finalement, on cache la mort des animaux. Et paradoxalement, plus on essaie de bien tuer les bêtes et plus dans la société, on aime le steak, plus on aime la viande.
Alors, je vais essayer de faire une histoire à partir de mon entrée dans la ville d'Avallon tout à l'heure. Je suis passé devant les anciens abattoirs qui apparemment sont devenus un espace culturel. Je ne sais pas où désormais se trouvent les abattoirs les plus proches.
Il n'y a plus d'abattoirs, hein. Je crois que c'est du côté de Moneto ou Migène.
Voilà, c'est extrêmement révélateur de cette histoire qui conduit à éloigner toujours plus loin de notre environnement quotidien le lieu de mise à mort des animaux. Et au passage, je ne sais pas quand est-ce qu'ont été construits ces abattoirs, mais à mon avis, les abattoirs d'Avallon, mais ça vous me le direz, hein, c'est sans doute fin deuxième moitié du 19e siècle, je dirais, ou ouais, essentiellement, en tout cas, c'est une hypothèse, je ne sais pas si vous connaissez la date de fondation des abattoirs à Avallon. Mais oui, c'est une très longue histoire, qui est l'histoire en fait de l'enfermement, de la mort des animaux. Alors, on va repartir de l'ancien régime, à une époque où un boucher, c'est véritablement un boucher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tue l'animal, qui l'abat, et qui va en faire le commerce de la viande. C'est-à-dire qu'il a toute la chaîne, si vous voulez, de l'abattage jusqu'à la vente. Aujourd'hui, un boucher, c'est toujours le même nom, c'est aujourd'hui un revendeur, enfin c'est un vendeur de viande. Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette disjonction, très clairement, de l'abattage des animaux? Eh bien, c'est que, alors, dans une chronologie qui va dépendre beaucoup du lieu, hein, c'est-à-dire que c'est à Paris que vont apparaître les premiers abattoirs municipaux, et puis après ils vont peu à peu essaimer dans toute la France, jusqu'aux dans les années 1800, à Paris et dans toute la France, les bouchers avaient le droit d'abattre dans leur boutique, dans leur arrière-boutique, les animaux. Donc les animaux venaient jusqu'au lieu de vente, en fait, vivants, pour y être abattus dans ce qu'on appelait des tueries. Le terme d'ailleurs est extrêmement, extrêmement révélateur. Et déjà dans la seconde moitié du 18e siècle, vous avez une élite sociale qui se plaint de plus en plus de l'odeur, du sang, mais surtout aussi de la visibilité du sang. Et le fait que, même en pleine ville, on puisse voir du sang déversé, on puisse voir ce qui est perçu comme une violence visible pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Et donc il y a une sensibilité qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à devenir intolérants à ce spectacle de l'abattage des animaux. Vous ajoutez à cela un souci de plus en plus marqué pour l'hygiène et une intolérance de plus en plus marquée au spectacle de la violence, qui fait que c'est notamment sous Napoléon Ier que on décide d'interdire aux bouchers de tuer leurs bêtes dans leur arrière-boutique, mais de créer des lieux uniquement dédiés à l'abattage des animaux. Ce sont les premiers abattoirs communaux de Paris où les bouchers vont devoir abattre les animaux dont par la suite ils vont revendre la viande. Et donc peu à peu, cette obligation d'avoir un abattoir communal se diffuse dans tous les départements. Alors pendant très longtemps, vous avez à la fois des abattoirs communaux et le droit d'avoir ce qu'on appelle une tuerie individuelle. Mais peu à peu, les tueries individuelles disparaissent, notamment par des interdictions d'arrêtés préfectoraux, et l'abattage devient le monopole de l'abattoir communal. Et puis, peu à peu aussi, vous avez ce ne sont plus les bouchers qui viennent abattre eux-mêmes la viande, mais un personnel spécialisé, qualifié, qui va s'occuper de l'abattage de la viande. Et puis, dans la seconde moitié du XXe siècle, ça, c'est très clairement dans les abattoirs d'aujourd'hui, vous avez aussi, pendant longtemps, vous aviez des bouchers qui étaient capables d'assommer, d'égorger, et puis après d'assurer la découpe. Aujourd'hui, vous avez un système de chaîne, hein, qui fait que celui qui assomme n'est pas celui qui égorge, avec comme ça un découpage en tout cas de la chaîne de la viande. Et donc, peu à peu, vous avez donc une invisibilité de la mort des animaux, alors même que la consommation de viande ne cesse d'augmenter, surtout au XIXe siècle. Ça commence un petit peu à se tasser là depuis, mais vous avez en tout cas de 1800 jusqu'en 2000, vous avez une augmentation croissante de la consommation de viande. Et donc vous avez un abattage de plus en plus important, et par contre une déconnexion de plus en plus importante des personnes qui consomment de la viande. C'est-à-dire que pendant longtemps, notamment lorsqu'on crée les premiers abattoirs, une obligation, enfin c'est pas une obligation d'ailleurs, mais on garde les portes ouvertes des abattoirs parce que les gens sont un petit peu méfiants de ce qui se passe. Autant auparavant, vous pouvez y aller voir votre boucher abattre la viande, autant avec les abattoirs, justement, il y a cette impossibilité. Aujourd'hui, on sait combien c'est dur de rentrer dans un abattoir, par exemple. Donc il y a toute cette difficulté, tout ce lien qui se perd. Jusqu'à ce phénomène d'aujourd'hui où cette mise à mort est éloignée géographiquement, mais en plus elle est aussi éloignée de nos yeux. Il faut absolument vraiment parfois des vidéos, même parfois clandestines, hein, pour tout d'un coup dans les médias voir apparaître cette réalité des abattoirs.
Il y a un cas où ça a l'air de vraiment poser problème, c'est le cas de l'hypophagie, où on n'arrive pas à déconnecter l'animal tel qu'il est dans les champs de l'animal qu'on a dans l'assiette. Où là, ça passe pas.
Ouais, alors
l'hypophagie, le fait de manger du cheval. Hein.
Ouais. À la fois ça passe et ça passe pas. Alors qu'aujourd'hui, ça c'est assez amusant, mais aujourd'hui les associations de protection, les sociétés de protection sont les premières à lutter contre l'hypophagie. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu une grande campagne de la Fondation Brigitte Bardot.
Le cheval, ça ne se mange pas.
Voilà, le cheval, ça ne se mange pas. Bon, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, c'est la SPA qui a mis en place et favorisé la boucherie hypophagique. C'est-à-dire qu'au début, ce qui était vu comme une mesure de bien-être pour les chevaux est aujourd'hui vu comme un mauvais traitement incroyable et intolérable pour les chevaux. Puisque l'idée de la SPA, c'était de se dire... de constater qu'en ville, il y avait beaucoup de chevaux qui souffraient entre d'agonie, entre le moment où ils ne pouvaient plus servir à tirer une voiture et le moment où ils terminaient à l'écarissage, il y avait des moments de souffrance absolument intolérables à leurs yeux. Et puis un autre souci, se dire, mais après tout, cet animal-là, encore un souci de productivité. C'est-à-dire, mais cet animal qui a potentiellement plein de viande, c'est vraiment du gâchis que de l'utiliser uniquement pour l'industrie de l'écarissage. Et donc, la SPA va favoriser l'ouverture de boucheries hypophagiques dans les années 1860. Et c'est aussi avec un souci très social de se dire, mais en plus, ça nous permettra d'avoir une viande de meilleur marché pour pouvoir proposer de la viande à des catégories sociales qui n'en disposent pas. Donc il y a vraiment une œuvre, en fait, dans la création de la boucherie hypophagique, vous avez à la fois une œuvre de compassion pour les animaux et une œuvre sociale pour les catégories sociales laborieuses. Et alors, après, l'histoire de la consommation de cheval, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un tabou. Il est très clair que il y a des périodes d'histoire, la commune en 1871, enfin le siège 1870, pas la commune, excusez-moi, certaines années, des années 1800, et puis alors, très clairement dans l'Ancien Régime, on a pu consommer dans des périodes de crise et dans des villes, du cheval. Mais il y a deux raisons, c'est que historiquement, il semble, mais je me suis, mais personne en fait ne s'est vraiment penché sur la question, il semble que la consommation de viande de cheval soit un héritage d'un vieil interdit religieux, mais qu'aujourd'hui, par contre, si on a autant de, on a de plus en plus de mal à accepter et même à accepter d'ailleurs que les autres mangent de la viande de cheval, c'est aussi parce que le cheval est devenu une sorte de nouvel animal de compagnie et que on ne, y a vraiment une intolérance qui naît, c'est de plus en plus considéré par certains, au même titre que de consommer de la viande d'un chien par exemple, parce qu'il y a une proximité une autre proximité, parce qu'il y a toujours une grande proximité avec les chevaux, mais en tout cas cette intolérance aujourd'hui à la consommation de viande de cheval est à mon avis un des signes que le statut du cheval s'est peu à peu rapproché du statut d'animal de compagnie.
Enfin, on ne mange pas de viande de chat. Le chat qui a mis quand même du temps, qui a été longtemps un animal malfaisant, qui était en fait associé souvent à la figure du diable. Hein. Et vous dites que dans les années 1870, dans un certain nombre de villes, plutôt du nord, on jetait les chats du haut des beffrois, on les grillait, on les brûlait. Hein. Les chats ont pas mal souffert avant d'être les petits minous qu'on voit derrière nos fenêtres.
Alors, votre question du chat va me permettre de répondre à la question également du chien que j'ai oublié entre-temps, et de montrer que ces deux animaux ont un destin à la fois parallèle et croisé. Pourquoi ? Parce que si on schématise un tout petit peu, mais parfois j'aime bien schématiser, le 19e siècle est le siècle du chien, et le 20e, 21e siècle est le siècle des chats. Ça ne veut pas dire que les chiens ne sont plus aimés, hein, au contraire, ou que les chiens ne sont détestés au XIXe siècle. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que très clairement, la société, les sociétés occidentales, je dirais jusque dans la seconde, jusqu'au milieu du XXe siècle, sont des sociétés clairement cynophiles. Alors qu'elles ne l'étaient pas, ou du moins, beaucoup moins, durant l'Ancien Régime et au Moyen-Âge. Le chien change de statut, à la fois dans les pratiques, et à la fois dans les représentations. Durant l'Ancien Régime, le chien n'a pas toujours bonne réputation, vous l'avez dit. C'est un commensal qui se contente des restes de la, des humains. C'est quelqu'un qui a une sexualité complètement débridée. Et on a, y a une mauvaise réputation du chien. Et puis en plus, vous l'avez dit, c'est des chiens souvent errants, qui sont agressifs, qui en plus peuvent transmettre la rage. Donc des animaux qui sont assez connotés négativement. Et puis, alors ça commence évidemment avant le 19e siècle, mais le 19e siècle, au contraire, est un siècle du chien, parce que, notamment, il y a deux points extrêmement importants, c'est que il est considéré comme un animal fidèle, et surtout, ce qui est de nouveau valorisé, c'est que c'est un formidable gardien de la propriété. Et ces deux valeurs-là, elles sont au cœur de sociétés qui sont dirigées par des élites bourgeoises et en grande partie chrétiennes. Et que donc là, on a là deux piliers absolument incroyables d'un bon ordre moral, la propriété et la fidélité, c'est absolument extraordinaire. Et le chien, c'est vraiment le paragon de ce bon ordre, qui est celui qui va, qui non seulement est fidèle au maître, mais en plus va pouvoir protéger ce que son maître possède, et lui aussi va pouvoir en plus être extrêmement dressé pour être justement le paragon de celui qui obéit. Et donc, ça devient aussi un animal très obéissant. Donc on a vraiment des valeurs qui sont très positives pour le 19e siècle. Alors bien sûr, tout ce que je dis après, on peut le discuter socialement. Hein. Le chien n'a pas toujours n'incarne pas toujours les mêmes valeurs, ni n'a les mêmes fonctions selon que l'on se trouve dans les Hautes-Pyrénées, en Bretagne ou dans la bourgeoisie lilloise. Mais enfin, une société clairement cynophile. Le chat, alors ça c'est un mystère, c'est un demi-mystère. je ne trouve, j'exagère beaucoup, mais je ne trouve pas de traces de chat dans les archives au 19e siècle. C'est-à-dire que c'est un animal qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Quand vous êtes dans les archives... dans les archives de la fourrière, par exemple, vous avez plein de choses sur les chevaux, vous avez plein de choses sur les chiens, sur les bovins, vous avez la littérature agricole qui est très riche en animaux d'élevage, évidemment, vous avez la littérature de la chasse, on parle beaucoup des chiens, et puis sur les chats, il y a presque rien. Alors, dans quelques témoignages, évidemment, il est présent, mais c'est un animal qui, en fait, intéresse assez peu, et il faut attendre vraiment la fin du 19e, et puis, évidemment, le 20e siècle, où là, vous avez une revalorisation du nombre, une revalorisation des chats. Le chat qui, au passage, représentait l'infidélité, qui est l'animal par excellence qui ne s'attache pas à un lieu, ou du moins qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, qui est beaucoup moins obéissant et beaucoup moins dressé que le chien. Et en plus, qui avait cette... on trouvait que les chats s'occupaient très peu et très mal de leurs chatons, et dans une société où justement la famille et les qualités maternelles étaient extrêmement importantes, le chat avait mauvaise presse. Et ce qui est assez, assez remarquable, c'est que au XXe siècle, dans des sociétés de plus en plus individualisées, où la notion même d'autonomie est de plus en plus valorisée, le chat, par son indépendance, et par sa capacité à être à la fois dehors, dedans, est devenu un animal beaucoup plus apprécié. Et d'ailleurs, je crois que statistiquement aujourd'hui en France, le nombre de chats de compagnie a dépassé le nombre de chiens de compagnie.
Parfait, Damien Baldin. Alors évidemment, on ne peut pas évoquer tous les aspects qui se trouvent dans votre livre. Hein. Vous parlez aussi un petit peu de la vivisection, vous parlez de la corrida, des paradoxes de la corrida, c'est aussi très intéressant. Puis il y a des passages formidables sur les loisirs populaires que sont l'élevage des pinsons aussi, c'est un aspect intéressant. Enfin, c'est dans le livre de Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques 19e, 20e siècle. On n'aura pas le temps pour le coup de cœur.
Eh bien, tant pis pour vous.
Désolé.
Ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Merci aux libraires de l'Autre Monde à Avallon de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cette émission avec Damien Baldin. Merci à vous, le public, et prochain rendez-vous de la librairie. Alors, peut-être qu'on peut donner d'autres dates, Evelyne, faute de coup de cœur. Après le 18 juin, donc, nous avons le 19 juin, Lola Lafont.
Lola Lafont. Fond, tout à fait, pour La Petite Communiste qui ne souriait jamais, paru chez Actes Sud. Le 20 juin, nous aurons Jacques Capla autour de l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité. 27 juin, Pascal Fautrier pour Les Rouges autour de la commune, enfin de l'histoire de la gauche.
Révolutionnaire, oui.
Ben oui, la gauche révolutionnaire. Le 28 juin, Isabelle Saporta pour son livre Vino Business, et ça se passera exceptionnellement au Cave de la Halle.
À Avallon.
Voilà, à Avallon. Le 18 juillet, Isabelle Asensio pour son roman Un poisson sans bicyclette.
Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques. Merci à vous, le public. Bonne soirée et à mercredi prochain. Thank you.